Chapitre 13. Je n'avais encore rien vu de vraiment choquant. Quand je revins à moi, j'étais allongé sur l'herbe, à proximité du chenil, en compagnie de Babington et de ce qui restait de la maisonnée, alors que sur les hauteurs, la villa achevait de se consumer. Tous les regards étaient braqués sur le chenil, où pourtant, en apparence, il ne se passait rien. Je dois préciser que ce chenil comportait un abri de rondins au centre d'un espace clôturé de grillages où s'abattaient normalement les chiens, surtout quand on leur rendait visite. Cette fois-ci, les chiens étaient demeurés dans la cabane parce que leur maîtresse y était confinée sans en vouloir sortir, malgré tous les appels. Et les animaux eux-mêmes, bien que l'accès du repaire fût un simple chambranle sans porte, dédaignaient d'obéir à toutes les incitations tendant à leur faire évacuer les lieux, flattés sans doute que Parthenope fût enfin venu partager leur existence familière. Nous ne savions comment dénouer cette situation intolérable. Parthenope avait jeté son fusil, d'ailleurs abîmé par ses excès, mais il était hors de question d'aller la maîtriser au milieu d'une meute de molosses dévoués à sa personne. Je proposais d'attirer les chiens par la faim en dehors de l'enclos, mais ils ne faisaient qu'un seul repas par jour et ils avaient déjà déjeuné, un bac rempli d'eau étant d'autre part à leur disposition près de l'ouverture de la cabane. Des heures odieuses s'écoulèrent sans amener le moindre changement. De temps à autre, car il devait faire terriblement chaud dans ce local, un chien ou Parthenope mettait le nez dehors pour laper quelques gorgées, indifférent à notre présence. À la nuit tombante, une garde fut laissée devant les lieux et nous allâmes coucher au quartier des domestiques, où je partageais une chambrette avec Babington. Le retour de Parthenope à la vie animale nous laissait sans voix. Le lendemain matin, à l'aube, la porte grillagée de l'enclos fut ouverte et un repas odorant disposé à proximité sur une verdoyante pelouse que les jardiniers avaient cessé d'arroser depuis l'après-midi de la veille, se prévalant du massacre pour chômer ou faire la mouche du coche. Le chien, au contraire du chat, est une bête dégénérée, domestique dans le sens le plus plat du terme, dont il n'existe à l'état libre aucun équivalent exact. L'homme fait du chien comme il malaxe le beurre, du basset au danois, visant toujours plus haut dans son caprice. Aussi, le chien a-t-il surenchéri sur les vices de son maître sans en retenir les rares qualités. Sodomite et onaniste dans son âge tendre, voué à des étreintes baveuses et interminables dans son âge mûr, pissant partout et à l'affût des relents les plus ignobles, le chien n'a pas même pour lui la qualité d'être fidèle, car son aveugle dévouement a sauvé plus de canailles qu'il n'a protégé d'honnêtes gens. Le chien est un être de rebut qui vit au niveau des poubelles. C'est dire que nous n'avions pas lésiné sur les mauvaises odeurs, arrosant d'huile de foie de morue des quartiers de viande avariés par les orages. Retenu par le magnétisme de Parthenope, les molosses se continrent jusqu'aux environs de midi. Et soudain, sous l'influence d'une brise favorable, ils se ruèrent en masse vers les victuailles, où ils plongèrent gueule et poitrail en agitant la queue. À l'issue de la cabane, un grand chien mâle s'était immobilisé, le cou étroitement enserré par les bras de Parthenope, les narines dilatées, mais la verge rouge et pointue saillant au travers du prépuce, humainement partagé entre des appétits divers. La table l'emporta bientôt et la bête s'arracha à l'étreinte pour aller rejoindre d'un trait ses congénères goulus. À genoux, Parthenope nous considérait d'un air étrange et apeuré, comme si elle découvrait des hommes pour la première fois. À l'instant que je faisais mouvement pour aller quérir, elle s'enfuit vers le fond de l'enclos, sautant d'un bond prodigieux par-dessus le grillage, fila comme une flèche en direction des proches écuries, enfourcha son cheval accru et sans reine ni selle se perdit en un clin d'œil dans la dense végétation des alentours. Nous en restâmes stupides. Il fallut 2 jours de battue pour retrouver sa trace, et encore à l'aide de ses meilleurs chiens. Dans l'après-midi du 3 octobre, sur le coup de 5 heures, alors que le soleil était déjà bas sur l'horizon et que nous nous apprêtions à mettre fin à la chasse, nous vîmes les six chiens sélectionnés s'engouffrer dans la petite grotte préhistorique qui m'avait étonné à mon débarquement. Parthénope y était allongé, les veines des poignets tranchées par l'arête vive d'un silex presque exangu. Je la pris dans mes bras en pleurant. Elle me dit avec un ultime éclair de relative lucidité
« Ayez bien soin de Diane !»
Mais son dernier regard tomba sur Méphisto, ce chien favori qu'elle avait naguère retenu d'aller manger, et elle murmura dans un souffle à son adresse.
« Ne sois pas jaloux de Charles, ce n'est qu'une grosse bête. »
Elle perdit alors conscience, et tous nos efforts pour la rappeler à la vie furent inutiles. Je fus le soir même traversé par une courte mais sévère dépression nerveuse, dont je sortis tout perturbé de pensées métaphysiques. Je croyais distinguer dans mon malheur la sanction immanente d'une abjuration impie. J'étais mûr pour subir quelques années d'influence de l'Église anglicane, et les portes du Christ College of Cambridge s'ouvraient toutes grandes devant moi. Je quittai Kalinaus le plus tôt possible, en portant parmi mes bagages une pièce dont l'intérêt sentimental égalait l'immense intérêt scientifique. La queue de ma délicieuse, de mon unique Parthénope, roulée sur elle-même dans un pot de confiture rempli de brandy, à défaut de formol. Un Babington en larmes me l'avait remise, me suppliant de la conserver avec de religieuses précautions. Longtemps, sur une étagère de mon bureau à Londres puis à Down, cette queue émouvante a excité mes souvenirs et mes réflexions, intriguant mes amis, ma seconde femme et mes quatre fils. Mais je ne me décidais point à agrémenter le bocal d'une étiquette mensongère qui m'aurait paru comme une impiété. D'où l'horrible méprise qui m'empêche de léguer la queue de Parthénope aux générations futures, ainsi que j'en avais toujours eu l'intention. Au printemps dernier, à la suite d'un remue-ménage au rapport avec la réfection de mon bureau, une cuisinière stupide a confondu la queue de ma première femme avec une saucisse de conserve et la relique a disparu au cours d'un dîner de famille dans un pudding de porc bouilli au pois. L'ébranlement, les crampes d'estomac que j'en ai ressenties n'ont pas peu contribué à me faire prendre la plume.